France Inter. Le 7-9.
Il est 7h46 et j'appelle au micro Monsieur Piketty Thomas et oui. Monsieur Se Dominique pour le débat éco du vendredi. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Je vous demande aujourd'hui de dire toute la vérité et rien que la vérité, notamment dans l'emploi de vos chiffres. Premier sujet, c'est un classique des campagnes présidentielles. On va parler du temps de travail. Mardi, le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré que les Français travaillent moins que les autres. Quels autres? On va le voir. À gauche, Jean-Luc Mélenchon et la CGT veulent le passage aux 32 heures. Anne Hidalgo en parle, Yannick Jadot aussi l'évoque. Augmenter ou réduire le temps de travail, telle est donc la question. Mais d'abord, l'un et l'autre, je vais vous demander de rester sur les faits. Est-ce exact ou pas? Les Français travaillent-ils moins ou pas que d'autres comparables, que dans d'autres pays comparables? Thomas.
Alors, pour ceux qui ont un emploi, le temps de travail moyen en France, d'après l'OCDE, chacun peut rechercher sur Internet, est actuellement d'environ 1500 heures par an, ce qui est en fait plus que en Allemagne, plus qu'en Suède, plus qu'au Danemark, tous ces pays-là sont plutôt autour de 1400, 1450 heures. Alors après, il y a des pays comme les États-Unis qui sont à 1700, 1800 heures. Et puis, alors, tout en haut, dans les données de l'OCDE, vous avez la Colombie ou le Mexique qui sont à 2200 heures. Et tous les pays européens eux-mêmes étaient à 2500 heures au 19e siècle. Les pays, on a plutôt envie de ressembler à l'Allemagne, à la Suède, au Danemark. Pourquoi ça pose pas de problème cette tendance vers la baisse du temps de travail sur le long terme? Parce que c'est évidemment la productivité qui a augmenté. Et là, je voudrais quand même rappeler un élément parce que on l'oublie trop souvent. Si vous avez un ordinateur près de vous et que vous tapez OCDE PIB par heure travaillée, vous verrez que la France, en termes de productivité, c'est-à-dire de PIB par heure travaillée, est tout en haut du classement. C'est-à-dire qu'on est, si vous allez sur le site de l'OCDE, à 67 dollars par heure travaillée, ça fait à peu près 57 euros par heure travaillée. Donc chaque Français, en moyenne, lorsqu'il travaille une heure, produit 57 euros de PIB. Alors, chacun va se dire, je vais aller demander une augmentation à mon employeur. Alors, c'est une moyenne, c'est-à-dire que vous avez... Alors, il y a toutes les cotisations sociales, il y a ce qui part en profit, il y a ce qui part pour remplacer le capital, et puis il y a une inégalité entre des personnes qui vont avoir 10 euros...
Mais alors,
euros,
le président a raison alors, ou à tort en disant ça?
Pour résumer, vous voyez bien qu'on travaille moins que l'Europe nordique et l'Europe germanique, c'est pas un problème à long terme, parce que ce qui compte à nouveau, la source de la... On travaille plus. Mais c'est pas un problème à long terme. C'est pas un problème à long terme, parce que ce qui compte, c'est cette évolution de la productivité qui est quand même... Il n'y a aucun grand pays qui est au-dessus dans le classement de l'OCDE. C'est-à-dire, pour le coup, en PIB par heure travaillée, on est même au-dessus de l'Allemagne. Et il n'y a que les États-Unis qui sont légèrement au-dessus, qui sont à 72, 73 dollars par an, mais c'est pas très différent.
Après ces chiffres implacables, la parole à Dominique.
Je cite juste l'OCDE qui n'est pas un institut gauchiste. Dominique.
Mais Dominique, ce,
manifestement, on n'a pas les mêmes sources et les mêmes données.
Vous avez juste à chercher sur Internet.
Tout le monde va pouvoir le faire, c'est ça qui est sympathique. Non, les choses sont relativement claires. C'est-à-dire que pour les Français qui sont au travail,
c'est ce que
qui travaillent.
J'ai parlé de ceux qui ont un emploi.
Et si on regarde la durée hebdomadaire, la France est dans la moyenne. Il n'y a pas de difficulté, de problème. La France est dans la moyenne. Il faut aller un peu plus dans le détail. Les non-salariés travaillent beaucoup plus qu'ailleurs parce que il y a des coûts et des charges sociales, cotisations sociales qui sont beaucoup plus élevées. Donc les plombiers, les commerçants, les artisans, les professions libérales doivent travailler beaucoup plus. Les salariés à temps complet travaillent moins sur la semaine, moins que les autres. Les salariés à temps partiel travaillent plus que les autres. La sociologue Dominique Méda dit que c'est un partage aussi homme-femme. La baisse du temps de travail à temps complet a permis que plus de femmes travaillent, puisque souvent les femmes qui sont d'ailleurs à temps partiel. Ça, c'est la durée hebdomadaire. On est dans la moyenne. Si on regarde le nombre d'heures par an, et le CDE, Thomas est assez clair là-dessus. S'il y a plus de congés, plus de RTT et plus de grèves, au total, le nombre d'heures est inférieur.
Non, par personne qui travaille, on est à 1500 heures contre 1400 heures en Allemagne. Non mais là, attendez, tout le monde peut taper OCDE.
Mais tout le monde va le faire, dès que Dominique aura fini sa phrase. Voilà.
Le problème, c'est l'accès à l'emploi, Dominique, c'est le chômage.
S'il vous plaît. Oui. Allez, Dominique.
Si on prend, et le point qui est peut-être essentiel, et on va être d'accord là-dessus, si on prend le nombre d'heures travaillées par Français, quel que soit son âge, et là, on est très en dessous, puisqu'on est le plus bas de tous les plus bas. Et je vous donne le chiffre, nous sommes à 628 heures travaillées par Français par an, contre 717 dans la moyenne de la zone euro. Pourquoi ? parce que les jeunes ne sont pas dans le marché du travail suffisamment et les plus âgés ne sont pas suffisamment dans
tout
le marché du travail. Est-ce que ça pose deux difficultés?
Allez-y.
Et d'ailleurs, je note, enfin pour être tout à fait exact, pardon Nicolas, vous avez dit qu'Emmanuel Macron avait dit que les Français travaillaient moins. Non, sa formule exacte, il a dit la France travaille moins. Et c'est factuellement exact. La France travaille beaucoup moins que les autres. Ça peut être un choix collectif, mais en tout cas, c'est un fait. Mais ça pose deux difficultés. La première difficulté, ça veut dire que chaque personne qui travaille, chaque actif, a, entre guillemets, à sa charge, un jeune et une personne âgée. Chaque actif a deux personnes en charge. Donc ça veut dire que sur ses épaules, il y a un poids considérable.
Mais ces personnes aimeraient bien travailler, Dominique.
Il y a un poids considérable. Et ça veut dire que, en termes de finances... Et la deuxième question, c'est que si vous avez un volume de travail qui est inférieur à tout ce qu'on voit ailleurs dans les grands pays de l'OCDE, ça veut dire qu'on a une activité qui est moins élevée.
Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec ce que vient de dire Dominique, Thomas Piketty?
On est d'accord. Moi, je veux quand même. Il faut pas que les gens repartent avec l'idée qu'on est tout le monde est en désaccord sur les chiffres. Le nombre d'heures travaillées par emploi.
On est d'accord sur la conclusion finale.
Le nombre d'heures travaillées par emploi en France est plus élevé, 1500 heures, qu'en Allemagne, dans les pays nordiques. Par contre, le nombre d'emplois. Ce qu'il faut regarder ensuite, le problème en France, c'est effectivement le taux d'emploi, c'est-à-dire l'accès à l'emploi. Alors là encore, si on regarde les 25-54 ans, on a à peu près le même taux d'emploi qu'en Allemagne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un problème de sous-emploi général. Il n'y a pas un problème de chômage généralisé. Par contre, sur les moins de 25 ans et sur les plus de 54 ans, il y a un taux d'emploi qui est inférieur. Alors, il faut se focaliser sur le problème. C'est-à-dire, plutôt que de culpabiliser les Français en disant « bande de feignants, vous ne travaillez pas assez », ce n'est pas le problème. Vous voyez qu'on a des problèmes qui sont très localisés. Donc, il faut les traiter. D'où viennent-ils? Alors, il y a des raisons différentes aux deux bouts. C'est-à-dire, sur les personnes les plus âgées, il y a eu en France clairement un abus de pré-retraite qui, dans un certain nombre de cas, a bien arrangé les entreprises, mais bon, qui a été encouragé par les pouvoirs publics de tous bords d'ailleurs, à utiliser un peu du travail jetable, ce qui finalement, pour la société, l'ensemble, à la fin, coûte très cher. Sur les jeunes, il y a un sujet de formation professionnelle. Donc, on parle souvent de l'Allemagne, un système de formation professionnelle. Bon, il y a aussi beaucoup moins de jeunes en Allemagne. C'est-à-dire que la taille des générations est beaucoup plus forte en France qu'en Allemagne, en dépit d'une population totale inférieure. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ce qui veut dire que pour un même budget de formation, il y a aussi un problème d'organisation du système de formation professionnelle. Mais vous voyez, tout ça n'a rien à voir avec bande de feignants, il faut travailler plus. Vous voyez, c'est là qu'on est à côté de la plaque.
On a entendu
Alors, c'est plus qu'une nuance quand même. Sur le diagnostic, oui, les jeunes ne travaillent pas assez. Apprentissage, formation professionnelle, les plus âgés sortent prématurément du marché du travail. Les entreprises sont en responsabilité. La difficulté majeure, parce que la question qui nous est posée par Nicolas, c'est aussi la baisse du temps de travail et les fameuses 32 heures qui reviennent. Moi, je suis absolument favorable à la baisse du temps de travail. La question, elle est double. C'est, est-ce que tout le monde doit le faire, et c'est la loi de la négociation collective. Et deux, est-ce que ça se fait à salaire qui bouge ou à salaire qui ne bouge pas? Est-ce que c'est 35 payé 39, 32 payé 35? Et évidemment, si toutes les entreprises, on va pas ouvrir maintenant le débat sur les 35 heures parce que franchement, on n'en peut plus. Mais ce qui est clair,
on va ouvrir celui sur les 32.
Non, mais il y a quelque chose qui est très clair, c'est que la réduction uniforme du temps de travail. La réduction uniforme a eu deux conséquences. C'est-à-dire, malheureusement, le taux de chômage n'a pas tombé que ça, et surtout, ça a eu une conséquence sur le pouvoir d'achat et les revenus. C'est-à-dire que les salaires en France, en niveau, ont moins évolué, et on se retrouve avec des problèmes de pouvoir d'achat. Donc, si vous me dites, les 32 heures payées, 32, mais moi je suis... les entreprises peuvent payer 32... travail 32 payé 35, c'est formidable si elles peuvent le faire.
Thomas Piketty,
c'est quelque chose d'uniforme.
L'opinion appelle avec malice ce matin la gauche RTT. Quelle est votre position?
Beaucoup des branches industrielles les plus productives en Allemagne sont à 32 heures depuis longtemps. Donc évidemment, tout dépend à nouveau de la productivité. C'est-à-dire que dans le long terme, à nouveau, le plus important, c'est l'effort de formation qui permet cette augmentation de la productivité. Vraiment, je veux insister sur ce que je disais tout à l'heure, et je pense que Dominique, vous le contesterez pas, vous tapez bip par heure travaillé sur le site de l'OCDE, on est tout en haut, on est même au-dessus de l'Allemagne. Et ça, c'est très important parce que par rapport aux États-Unis, par exemple, on a légèrement décroché depuis la crise de 2008. Alors, il y a eu toutes les politiques après la crise de 2008 qui ont fait que l'Europe s'en est moins bien sortie. Il y a aussi l'absence d'investissement suffisant dans la formation. Vous savez, maintenant, on a les nouveaux chiffres de la loi de finances pour 2022. L'investissement par étudiant en France a baissé de 14% de 2008 à 2022, dont moins 7% de 2017 à 2022. Donc après, on peut faire la Startup Nation
sur l'université. Sur les 32 heures, tout de même, ouais. Thomas, non, sur les 32 heures, est-ce que c'est un slogan de campagne ou est-ce que ça mérite réflexion, voire est-ce le sens de l'histoire?
Alors, c'est, oui, à long terme, c'est évidemment le sens de l'histoire. Après, est-ce que c'est là la priorité, là, immédiatement? Pas forcément. C'est-à-dire, moi, je pense que tout ça, ça doit se placer.
On est d'accord,
la réduction.
C'est incroyable.
Oui. Non, mais attendez, sauf que vous vous dites, on va laisser le marché faire. Sauf que le marché aux États-Unis, ils sont à 1800 heures.
Les conventions collectives.
Oui, mais non.
Les discussions dans les entreprises, dans les branches.
Vous avez aussi la loi.
Si certains peuvent le faire, c'est formidable.
À long terme, si vous regardez les pays qui ont baissé le temps de travail, comme l'Allemagne, comme les pays nordiques, la France par rapport aux États-Unis ou à la Colombie, vous avez la loi joue un rôle. Mais à nouveau, le plus important, c'est que ça se place dans un système global où on investit dans la formation, où on réduit les écarts aussi entre salaires. C'est vrai que si vous avez les mêmes écarts entre revenus, entre salaires, que vous baissez le temps de travail de tout le monde, pour les plus modestes, il y a un souci.
Un mot, Dominique, et puis on passe à notre deuxième sujet rapide.
Je voudrais revenir un mot sur la productivité, parce qu'on répète en permanence que la productivité est plus élevée qu'en France, et d'ailleurs, vous l'avez dit, Thomas, en réalité, je pense que c'est totalement pipeau ce chiffre, parce que quand vous sortez les jeunes qui ont une moindre productivité,
et
les plus âgés, qui ont une productivité moins élevée, comme il y a moins de monde sur le marché du travail, la productivité se concentre sur ceux qui ont un travail.
Mais juste en corrigeant pour ça, ça a été fait plein de fois le calcul, on reste tout en haut du classement. Il faut arrêter de dénigrer l'économie française, si vous voulez. La vérité, c'est que si on a un niveau de productivité collective grâce à un système de formation primaire, secondaire, par rapport aux États-Unis, par rapport aux pays les plus avancés de la planète, on est très haut. Et on peut faire mieux à condition de se focaliser sur les bonnes questions.
Allez, rapidement, pour ce deuxième sujet, quelques instants, même pas quelques minutes, pour votre réaction à chacun sur le rapport publié par France Stratégie consacré aux effets de la suppression en 2017 de l'impôt sur la fortune ancienne manière. Il n'y a pas d'effet positif clair sur l'investissement et l'économie, Dominique. Thomas, qui veut y aller? Thomas, un grand sourire.
Grand spécialiste.
Écoutez, juste pour dire que le gouvernement avait dit on fera des évaluations, et si les évaluations sont mauvaises, on reviendra sur ce qu'on a fait. Donc la question aujourd'hui, c'est que fait le gouvernement? C'est-à-dire là, on a des évaluations qui quand même regardent de façon très fine au niveau individuel, avec des fichiers individuels où on voit qui payait avant l'impôt sur la fortune, quelles sont les entreprises dont les actionnaires payaient sur la fortune, et on regarde à la loupe celles qui ont le plus bénéficié de la suppression de l'impôt sur la fortune, qui par définition c'est des contribuables qui font partie des 1% les plus fortunés en France, on ne voit pas du tout plus d'investissement dans les entreprises concernées. Alors que est devenu l'argent? On ne sait pas. C'est-à-dire, il a été utilisé sans doute forcément pour quelque chose, pour consommer, pour acheter une résidence secondaire, pour investir ailleurs éventuellement. Il faut bien voir que même si on avait trouvé la trace de cet investissement, toute la question serait été est-ce que cet investissement est plus utile que si l'argent, au lieu d'être distribué aux 1% les plus fortunés, avait été auprès de classes moyennes ou d'entrepreneurs moins prospères, parce que l'économie elle fonctionne avec tout un tas d'entreprises, de petites et moyennes entreprises dont les gens aimeraient bien payer des impôts sur la fortune, mais c'est pas le cas. Donc là vraiment l'évaluation est quand même terrible, c'est des données individuelles microéconomiques. La question c'est est-ce qu'à un moment on prend ça en compte ou pas?
Une minute, Dominique Seux.
Je crains, alors c'est un rapport très intéressant dont on conseille la lecture, je crains néanmoins que il ne rentre pas suffisamment dans les cases individuelles. Or sur ces sujets-là, ce sont les cases individuelles qui comptent.
Expliquez.
Je vous prends un exemple, quelle est la dernière entreprise qui est rentrée au CAC 40? Elle s'appelle Eurofins, c'est un ensemble de laboratoires pharmaceutiques qui a été créé en 1987 en France à Nantes et qui en 2011, au moment où Nicolas Sarkozy a augmenté la fiscalité des revenus mobiliers, est partie au Luxembourg. Elle avait 3 salariés en 1987, elle en a 55 000 aujourd'hui, son siège est en Belgique et au Luxembourg. Donc c'est l'illustre. Jamais ils n'ont dit évidemment que c'était pour ces raisons fiscales. Et franchement,
vous
n'en sais rien. Bon, mais en tout cas, je note qu'un départ au Luxembourg à l'automne 2011, juste avant que.
La question, c'est est-ce qu'on essaye de regarder des statistiques représentatives.
Je note qu'en France, il y a 22 licornes aujourd'hui, c'est-à-dire des start-up, Doctolib, Miracle. Il y a OVH qui rentre en bourse aujourd'hui. Quand on interroge les spécialistes, ils poussent un énorme éclat de rire en voyant ce type de rapport et disent. Elles ne sont pas parties et elles seraient parties s'il y avait encore l'ISF.
Allez, Dominique, Thomas Piketty, merci.
On va leur demander de faire des études d'évaluation.
Merci pour ce débat. Merci pour ce débat
que vous
allez poursuivre.
C'est l'économie concrète.
S'il vous plaît, vous allez le poursuivre dans le couloir, ce débat. France Inter.